The Beat,
The Culture,
une émission produite par Radio Campus Paris. The Beat, The Culture, c'est LA nouvelle émission qui va te faire découvrir l'univers du beatmaking et de la culture afro et diaspora en France. Un lundi sur 8 à 20h sur le 93.9 FM et en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Hello, hello! Bonsoir et bienvenue sur The Beat, The Culture, sur Radio Campus Paris, sur l'épisode 3 de notre émission. Ce soir, on va recevoir Elisa du collectif La Cellule. Et du coup, on va parler collectif, travail ensemble, entrepreneuriat aussi. Et ensuite, en deuxième partie, on recevra Christy du marché afro-caribéen qui nous parlera aussi du marché qui va arriver bientôt et de l'artisanat dans la culture afro-descendante. The Beat, The Culture, épisode 3, c'est maintenant.
The Beat. The Beat. The Beat.
Hello, donc comme je disais, je suis avec Elisa qui est à l'initiative du collectif La Cellule. Si vous ne connaissez pas, La Cellule, c'est un collectif qui est composé de beatmakers, de musiciens, de rappeurs, d'auteurs, de topliners qui sont des créateurs de mélodies. Et la quasi-totalité du collectif est actuellement en résidence pour une dizaine de jours. Mais Elisa a quand même pu venir en personne dans nos studios. Merci Elisa.
Enchantée. Salut.
Enchantée Elisa, bienvenue. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le collectif, qui vous êtes et puis combien vous êtes?
Alors, combien on est, je ne sais pas exactement. Parce que en fait, il y a un noyau du collectif et ensuite, il y a toute la famille autour, enfin toute la communauté. Donc, c'est très difficile d'un peu chiffrer combien on est parce qu'en fait, on les considère quand même un peu genre faisant partie du collectif.
Ouais.
Et dans le noyau, on est 8 ou 9 à peu près.
D'accord. Et donc, dans le noyau, on a, comme je disais, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des beatmakers.
Alors, il y a notre ingé son.
OK.
Il y a moi qui est du coup la productrice, mais je suis aussi beatmakeuse. Il y a des chanteurs rappeurs. Ils sont plus chanteurs. Enfin, à la base, c'est des rappeurs, mais ils sont très chanteurs maintenant. Parce que...
D'accord. Ouais, parce que le rap est devenu
mélodique.
Oui,
c'est ça. C'est très, on est très dans la mélodie. Du coup, je ne sais plus trop comment les présenter à chaque fois. Parce que du coup, ils ne sont pas en mode... Tu sais, quand tu dis rap, on peut penser que c'est vraiment kickage, etc. Ouais. Mais nous, on est très dans la mélodie.
Mm-hmm.
Et on a aussi un bassiste qui fait tout. Bassiste, guitariste, pianiste, un musicien.
Donc, il y a de l'instrument.
Batteur, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a de tout. Beatmaker, rappeur, chanteur et... musicien.
Quand est-ce que ça a démarré et comment ça a démarré?
Alors, en fait, ça a démarré de manière assez inattendue, parce qu'en fait, à la base, on n'avait pas cette idée de vraiment créer un collectif. Il s'est créé de manière très naturelle.
Ouais.
En fait, on travaillait tous au même endroit, okay. À la base. Donc, je ne sais pas si on peut dire...
Ouais, tu peux dire, vas-y.
Citadium. Okay. Donc, en fait, c'est un magasin... Un magasin un peu concept store qui vend du streetwear, donc des sneakers et tout, des vêtements. Mm-hmm. Donc c'est très culture hip-hop, etc. Et en fait, nous, on travaillait au plus gros, qui est Haussmann,
ouais.
Qui est un magasin qui est sur 4 étages.
Ah ouais.
Et donc moi, je travaillais à la com. Enfin, à la base, j'étais aussi vendeuse, je vendais des sneakers, mais du coup, j'ai un peu un parcours qui a fait que je suis arrivée à la com chez Citadium.
Mm-hmm.
Et du coup, moi, vu que je suis community manager, je suis amenée à travailler sur les 4 étages. Et donc, je connaissais un petit peu du monde. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y a 300 vendeurs, mais je connaissais un petit peu et je savais qu'il y avait beaucoup de talents dans ce magasin, etc.
Mm-hmm.
Et en fait, très récemment, en 2020, ils ont fait des travaux dans le magasin. Ils ont aménagé un espace qui s'appelle la Music Box,
okay.
Qui, à la base, n'est pas du tout un studio de musique. C'est un espace où ils voulaient faire un petit peu de l'événementiel, mais ils ont... Enfin, les projets qui ont été dedans, enfin, ils ont fait venir des prestats externes et tout, qui payaient pour animer des projets. Enfin, ça a pas abouti, enfin, ça a très vite arrêté.
Mm-hmm.
Et 90% du temps, cet espace, il était assez vide.
Mm-hmm.
Et,
donc c'est dommage.
Ouais, c'est ça, c'est dommage. Et en fait, moi, je passais devant tous les jours et j'étais assez frustrée parce que moi, en fait, j'attendais... que je termine le taf pour rentrer chez moi et faire de la musique et tout.
Mm.
Et j'avais quelques collègues et tout, on parlait de musique et tout, et on se disait, mais faudrait trop qu'on se capte et tout pour faire de la musique et tout, mais en fait, on n'arrivait jamais, parce qu'en fait, quand tu sors du taf, t'as ta vie et tout, ouais. C'est un peu compliqué, etc. Et en fait, moi, j'ai proposé, qu'on se réunisse entre collègues dans cet espace, Le magasin était OK de nous laisser une après-midi.
Ouais. Une après-midi, et genre par... Enfin, juste une
par semaine, ouais, par semaine, c'est ça, bah, quand c'était possible. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, en fait, bah, du coup, pour que le projet se fasse, moi, j'ai fait un peu le tour du MAC parce que je connaissais quelques talents, mais on n'était pas beaucoup, pour voir qui faisait quoi et tout. Et en fait, on a découvert que plein de gens avaient grave du talent. Tu sais, ils déclaraient pas, tu vois, genre, « Ah, mais toi, tu fais de la guitare, mais tu nous l'as jamais dit et tout. Ouais. » Genre, on a trouvé un batteur, personne ne savait qu'il était dans la musique, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, en faisant le tour comme ça et tout, j'ai dit « Mais est-ce que toi, tu fais... » Quelqu'un dans votre équipe fait de la musique et tout. Et au final, on a réuni une équipe d'à peu près 10 personnes. Et on a commencé comme ça, entre collègues, quoi. Et en fait, je pense que vu qu'on travaille, on était dans la même situation, on travaillait au même endroit, on avait la même passion. Enfin, ça a très vite créé un lien assez fort. Et c'est devenu, en fait, une famille. Et donc, ouais. En fait, et ce noyau, c'est celui-là, en fait, c'est toujours resté le même.
Et comment c'est venu, est-ce que vous l'appeliez la cellule justement?
Et bah justement parce qu'en fait cet endroit où on a commencé à se rassembler, parce qu'à la base on n'avait pas de nom, enfin on n'avait pas pour projet de créer un collectif, et en fait on a commencé à produire des sons et il fallait trouver un nom justement pour sortir les sons sous ce nom,
ouais.
Parce que c'était un projet commun, quoi.
Donc à la base vous vouliez juste vous réunir,
juste,
faire du son,
voilà,
et
c'est
tout,
ça, partir, ouais, c'est ça, c'était juste un simple rassemblement de passionnés sans but précis. Et on a, en fait, ce qui en sortait, c'était vachement bien. Du coup, il y a des sons, on a voulu les finaliser. Donc, on est allé dans un vrai studio, par contre, pour enregistrer. Parce que, vu que cet espace-là, c'est pas un vrai studio. Surtout que quand on a commencé, si les gens vont voir sur nos réseaux un peu le contenu, on a vraiment aménagé ça en studio et tout.
Il y a quoi dans cet espace maintenant?
Du coup, nous, on l'a aménagé en studio parce que quand on est arrivé, j'avais juste mon ordinateur que je ramenais chaque semaine et un clavier MIDI. Ouais. Et on faisait ça, on a commencé avec ça.
Ouais, ouais.
Et
au fur et à mesure, il y a peut-être
très vite.
Micros,
voilà, c'est ça. En fait, ceux qui faisaient, par exemple, les guitaristes, ils venaient avec leur guitare, mais du coup, le jour où le guitariste n'était pas là, il n'y avait pas de guitare. Mmh. Donc, en fait, on était un peu limités. Et moi j'ai contacté Woodbrass, qui est un magasin.
Oui, ouais. Tu peux dire, ça, c'est un magasin du coup d'instruments.
Ouais, c'est ça, d'instruments. Bah, ouais. En fait, tous ceux qui sont dans la musique, c'est sûr qu'ils connaissent, quoi. Et ils ont été très vite très chauds pour nous soutenir. Et donc, ils ont fourni tout le matos qui manquait, quoi, pour le studio. Et donc, c'est devenu un peu genre notre labo, quoi.
Ils vous l'ont fourni
Ouais, en gros, ils nous ont dit, qu'est-ce qui vous manque? Et voilà, faites
une
liste.
C'est dingue, c'est trop cool.
Ouais, non, c'est trop bien. C'est trop bien, donc...
Et du coup, ce matériel, il reste là ou vous le ramenez à chaque fois
On le laisse, parce que ça, c'est compliqué.
Ouais.
Il y a plusieurs guitares, une basse et une batterie, donc...
Ah ouais. Non, mais c'était
et le micro, du coup, parce qu'on n'avait pas de micro.
C'est une bonne idée d'avoir appelé Woodrass,
voir. J'ai tenté, oui. Mais du coup, on a pas dit pourquoi on s'appelait la cellule.
Non.
Parce qu'en gros, du coup, cet espace-là qu'on a aménagé, en gros, on cherchait le nom, on était dedans. On se disait, mais comment on va s'appeler et tout. On n'avait pas trop d'inspi. Et en fait, cet espace que Citadium a créé, il est en forme de cage noire. En fait, il y a des grillages. Enfin, c'est noir. Et en fait, c'est au milieu du magasin, mais c'est fermé. Il y a des portes. Et en fait, c'est une cage noire. Et donc, du coup, on s'est dit, on va s'appeler la cellule.
La cellule sur votre page Instagram, justement.
Ouais, mais en fait, l'espace où on est, voilà, si les gens veulent voir. On voit,
si tu veux, tu peux name dropper la page.
C'est... c'est ça.
La page Insta qui
est... Ouais, c'est la cellule label tout attaché.
Donc voilà, comme ça, si vous voulez voir à quoi ressemble le lieu qui a inspiré le nom, la cellule label tout attaché sur Instagram.
Et en fait, il y a plusieurs sens, du coup, parce que... les autres définitions de la cellule, c'est, la définition scientifique.
Ouais.
Tu vois, il y a un noyau et il y a autour, il y a tous ces gens-là, en fait, il y a toute la famille. Donc, en fait, nous, on est le noyau et après, ouais. Parce qu'en fait, au départ, on n'était qu'entre nous, mais quand on a commencé à publier des choses sur les réseaux et tout, tout le monde a été grave intéressé parce que déjà, il y avait une super ambiance.
Ouais.
L'espace, il est très atypique. Enfin, ça n'existe pas. Tu vois, on est en plein milieu d'un magasin, on fait de la musique. Je crois pas que ça existe ailleurs.
Ouais, Et comment se passent les sessions concrètement? Là, vous voyez toujours tous les mercredis, tous les jeudis plutôt.
Ouais, tous les jeudis. Donc, à Cita. Venez pas comme ça. Hein. C'est sur invitation.
Ok.
Ouais, je préfère préciser.
Ah, mais tu fais bien de le dire.
Vu que c'est un espace assez ouvert. et que c'est très petit, on est très vite beaucoup. Ouais. Après, d'une session à l'autre, des fois on est beaucoup, des fois on est un peu moins.
Et là, vous travaillez sur un projet en ce moment ?
On sort toujours des singles parce qu'en fait on part de zéro, parce qu'en fait à la base le projet c'était pas de sortir de la musique et tout, c'est on l'a fait parce que les sons ils étaient, enfin il y avait le talent et on trouvait ça dommage que ça aboutisse pas, tu vois, enfin parce qu'à chaque fois qu'on vient on crée un son de A à Z.
Ah ouais.
Et en fait quand le son il est bien, t'as envie de le finir,
t'as envie de le partager,
oui c'est ça,
ouais, t'es fier quoi, surtout ouais, quand il y a un esprit collectif comme ça, envie de faire écouter à d'autres.
Après
tout,
on n'a pas fini tous les sons qu'on a fait parce que du coup ça serait impossible, enfin ouais. C'est trop, surtout que les gens se rendent pas compte mais ça coûte extrêmement cher de produire de la musique.
Ça c'est intéressant d'en parler aussi, hein, je trouve.
Ouais, c'est ça, aller au studio. Après nous en plus surtout on a la chance que on n'est pas de beatmaker ou de musicien ou de personne à payer parce qu'on fait tout nous-mêmes, de A à Z, l'équipe en soi, toute l'équipe et tout.
Du coup, mix mastering aussi, vous faites vous-même ?
Du coup, c'est notre ingé qui est maintenant, qui est maintenant fait partie de l'équipe et tout, mais...
Ouais, donc ça déjà, c'est des coûts que vous avez en moins.
Ouais, en fait, c'est parti de... Parce qu'en fait, on a fait un son qui était au bout de la deuxième ou troisième séance, qui était vraiment cool. Et on l'a fait écouter du coup à Cita Drum. Et ils ont dit, ah mais c'est trop bien et tout. Et en gros, ils ont dit, ce son-là, allez l'enregistrer au studio, on vous paye le studio et tout.
Waouh.
Donc c'est parti de ça en fait. Et ensuite, nous on trouvait ça dommage de s'arrêter à un son. Et du coup, moi j'ai négocié avec Cita Drum pour qu'ils nous donnent plus de budget, etc. Donc en gros, Cita Drum est devenu partenaire dans notre projet. Au même titre que Woodbrass, qui nous a fourni le matos.
Et c'est trop lourd, ça. Franchement, encore une fois, j'applaudis le fait d'avoir eu l'initiative d'inclure Citadium, déjà d'aller les voir pour investir les lieux, ensuite d'aller les voir pour présenter le projet et d'aller voir Woodbrass. Je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui aiment faire de la musique, mais qui ont peut-être peur d'aller au-devant et puis de montrer, d'en parler, ou alors même si c'est en progrès, justement, quand c'est encore en progression, d'en parler, de dire, ah ben, on a telle idée en tête, on en est là, les gens sont ouverts d'aider derrière.
Faut tenter, après, de toute façon, il n'y a rien à perdre dans tous les cas.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà écouter un premier son de la cellule avant de continuer l'interview sur The Beat The Culture, sur Radio Campus Paris.
Moi, je veux pas être comme les autres. J'ai patiné comme les autres. Non, je veux pas être comme les autres. Je veux patiner comme les autres.
Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'suis pas un voyant, mais j'commets des délits. Tu bouges la tête, tu en direct dans des nœuds. Sur ta mélodie, je réfléchis à ma Yves. Ça mène à quoi? Ça mène à rien. Tous les jours, on se calme, mais pour faire quoi? Pour aller où? Ivre de quoi? Mais toi, tu veux quoi? Reste avec moi.
Tous les jours, moi j'ai donné pour cette vie. Elle voulait me boire, mais mon verre est à moitié vide. Mais le temps passe, mais je perds le fil. Et si tout s'arrête, bébé, retiens nos sourires.
Moi je veux pas être comme les autres,
pas être comme les autres,
pas être comme les autres,
pas être comme les autres.
Moi je veux pas être comme les autres,
pas être comme les autres,
pas être comme les autres,
pas être comme les autres.
Tous les jours je suis dans le ghetto, tous les jours je suis dans le ghetto.
Si tu m'en haut, faut pas t'étonner.
Si tu m'en haut, faut pas t'étonner.
C'est pas l'argent qui nous motive,
c'est pas l'argent qui me motive.
Passion qu'on est motivé.
Je veux pas être comme les autres, comme ces répliques. Pas être comme les autres, j'ai la gimmick. J'ai cassé les codes, cassé l'éthique. J'ai perdu des potes sur un coup de clic.
Oh, ce monde en danger. Ce n'est pas pour vous que je vais changer. Je n'attends pas qu'on me donne à manger. Sur le bon côté, je suis rangé.
Tous les jours, moi j'ai donné pour cette vie. Elle voulait me boire, mais mon verre est à moitié vide. Mais le temps passe, mais je perds le fil. Et si tout s'arrête, bébé, retiens nos souvenirs.
Tous les jours, je suis dans le ghetto.
Tous les jours, je suis dans le ghetto.
Si tu me vois en haut, faut pas t'étonner.
Si tu me vois en haut, faut pas t'étonner.
C'est pas l'argent qui nous motive.
C'est pas l'argent qui nous motive.
C'est pas pour l'argent qu'on est motivé.
C'est pas passion qu'on est motivé.
Pareil comme les autres.
Pareil comme les autres.
Pareil comme les autres.
Pareil comme les autres.
C'était Pas être comme les autres de La Cellule et vous êtes toujours sur The Beat The Culture sur Radio Campus Paris.
The beat. The beat. The beat.
Je reprends avec Elisa donc, du collectif La Cellule. Quand vous vous réunissez comme ça, est-ce que vous avez un chef d'orchestre en quelque sorte, un directeur artistique ?
Non, du tout. En fait, c'est vraiment freestyle, entre guillemets. À chaque session, on va recommencer un morceau. Et en fait, depuis qu'on a commencé du coup à inviter des gens de l'extérieur, donc en fait, ça a commencé par notre entourage. Genre, ah tiens, viens, nous, on se réunit, ouais. Viens, viens et tout. Parce que quand tu fais de la musique, t'as forcément des potes aussi. Ouais, c'est ça. Donc on a commencé à tous ramener des potes. Et ensuite, en postant sur les réseaux, comme je disais tout à l'heure, les gens nous ont demandé directement, mais est-ce qu'on peut venir et tout. Donc on a commencé à inviter des gens de l'extérieur, etc. Et en fait...
Et vous avez des influences différentes ou vous avez à peu près tous les mêmes intérêts musicaux
De base, non. Enfin, il y a de tout, en fait. Il y avait... rap français afro, il y avait dancehall. Au tout début aussi, il y avait Basile qui fait du rock.
Ok.
Qui est parti à Nice et tout, qui nous manque beaucoup parce qu'il était trop à fond et tout.
Pensez pour Basile du coup.
Ouais, pensez pour Basile. Et ouais, en fait, non, on a mélangé tout ça. Par exemple, il y a un son qu'on a sorti qui s'appelle Yoka, si vous êtes attentif, il y a un peu de tout. Donc du coup la guitare, c'est une guitare rock que Basile a fait, et on est parti sur une rythmique drill, mais au refrain ça part en afro un peu zouk.
J'ai bien aimé la référence dans Yoka à Tony Yoka et puis aussi Yoka en Lingala, qui veut dire écoute. J'ai bien aimé ce son aussi, j'avoue. Et du coup, plus qu'un collectif maintenant, vous avez créé un label, si je ne me trompe pas, c'est ça, pour pouvoir porter votre projet.
En fait on fonctionne comme un label et enfin officiellement il n'y a pas de structure label, tu vois, mais en gros, c'est en cours. Parce qu'à la base, comme je disais, on n'avait pas prévu de produire de la musique. On voulait juste se rassembler pour faire de la musique.
Ouais.
Et c'est parti de là. Et c'est pour ça qu'on a mis La Cellule Label. Mais parce que vraiment, on produit... Enfin, on est les producteurs du projet.
Ouais. Et du coup, à quoi va vous servir le label ? Enfin, la création d'une structure juridique en somme.
Parce que du coup, le but, c'est un peu qu'on continue à produire parce que le projet est cool.
Ouais.
Et que là, ça fait à peu près un an et demi. Mmh. Et donc, du coup, là, on se rend compte que vraiment, il faut qu'on... Si on veut aller plus loin, parce qu'on a plein d'idées et tout, on veut faire plein de trucs. Notamment, là, on sort des singles, mais le but, c'est qu'après, on puisse sortir des compiles et inviter des gens extérieur au collectif à faire des sons avec nous. Et la musique, c'est une industrie très très compliquée. Pour se protéger, il vaut mieux faire des contrats, des trucs. Ouais. Et c'est mieux d'avoir. Surtout quand tu produis, bon là, on n'est pas très gros, tu vois, mais si demain, par exemple, on fait un gros banger, un gros hit certifié et tout, quand faudra payer les gens.
Déjà,
et
vous
tout.
Faites pas mal de stream là, en vrai. Hein.
En vrai, oui, je suis très étonnée, oui et non, parce qu'on bosse beaucoup pour promouvoir nos morceaux, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes. On part de zéro, en fait. On part totalement de zéro, et on a quand même à peu près environ en moyenne 10 000 auditeurs par mois sur Spotify uniquement. Sur les autres plateformes, j'ai pas les chiffres, mais.
Ouais, donc il y a quand même un engouement, il y a de l'écoute
sur les singles. Et on a sorti uniquement que 6 singles, donc je trouve ça vraiment cool pour un début.
Ouais.
Et le but, comme je disais, c'est de produire des compiles, d'inviter des gens d'extérieur, des gens déjà en place, ce serait bien, et continuer comme on fait, à se développer, etc.
Est-ce que entre-temps, tu as rencontré d'autres collectifs un peu comme le vôtre, qui est un peu pluridisciplinaire?
Non, pour le moment, en fait, j'ai pas d'autres exemples auxquels comparer La Cellule.
Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu inédit, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est inédit. Que ce soit autant le collectif, vraiment genre en mode famille, que les sessions collaboratives qu'on fait et tout, où on invite d'autres gens, et que ce soit, toutes les choses aussi qu'on partage sur nos réseaux sociaux, parce que dans la musique, les gens se rendent pas compte, mais par exemple, quand un artiste va communiquer sur sa musique, c'est quand il va la sortir, il fait sa promo.
Ouais.
Alors que nous, par exemple, je vais prendre du coup le son qu'on vient écouter, Pas être comme les autres. Quand on a posté la vidéo du son, en fait, le son n'existait pas. C'était une ambiance le jour d'une session en studio.
Ah, okay.
Et ils faisaient une top line, donc ils chantaient du yaourt. Et il y avait juste le refrain qu'ils avaient. Et en fait, quand j'ai posté cette vidéo, tout le monde nous a dit, on a reçu des centaines et des centaines de commentaires de gens qui nous disaient « Ça sort quand ? Ouais. C'est quoi le titre est-ce que le son est disponible ?» et tout. Mais en fait, le son n'existait pas du tout.
Bah, moi, je crois que c'est sur cette vidéo, d'ailleurs, que je vous ai remarqué et que je vous ai vu la première fois sur les réseaux. Donc, je pense que ça a vraiment explosé. Ça a créé un engouement.
Et en
aussi.
Fait, le son est sorti 8 mois plus tard. Mais parce qu'en fait, il fallait se réunir en studio. Ils étaient 3 déjà. Ils sont 3 sur le morceau. Il fallait finir la prod déjà, parce que la prod n'était pas finie. Enfin, okay. En fait, elle était finie, mais enfin, il fallait genre peaufiner la prod. Il fallait écrire le texte, finir la top line, se réunir, ouais. Enregistrer. Et après, on a fait plusieurs sessions pour peaufiner, etc. Et après, on a voulu clipper et tout. Et le temps passe très vite. Et
mais je trouve que c'est un bon moyen de communication. En vrai, ça fonctionne de partager la progression, en fait.
Ouais,
parce que je vois de plus en plus soit d'artistes ou de producteurs qui vont publier des sessions ou alors un son, ouais, qui n'est pas forcément terminé, mais dans une ouais, ambiance.
Ça se fait de plus en plus depuis TikTok, j'ai remarqué. Parce qu'avant, les gens communiquaient pas du tout sur leur son avant.
Ouais, et puis le son sortait, et voilà quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. C'était la promo, c'était juste avant la sortie et après. Mais après, nous, quand on fait ça, c'est pas vraiment dans le but de communiquer, c'était juste pour partager.
Ouais.
Parce qu'on voulait partager ce qu'on faisait et tout. Mais
et ça intéresse les gens, en fait. En vrai, ça intéresse les gens de savoir, de connaître le côté projet, le côté développement, ouais, qui sont les gens, c'est quoi l'ambiance entre vous.
Mais du coup, beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'en fait, du coup, quand on a commencé à communiquer pour dire que le son allait sortir, mais les gens, ils disaient, mais 8 ans après, genre. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça prend du temps, en fait. Mais du coup, avec ce genre de contenu, ils vont commencer à comprendre et tout.
Ouais. Et j'ai vu que la cellule propose aussi ses services sur BeatStars. Alors, BeatStars,
ouais,
c'est récent, ça. C'est un site internet qui permet aux producteurs, aux beatmakers, de proposer des licences sur leurs compositions. Et aux interprètes aussi d'acheter ces licences et de les utiliser, par exemple en s'enregistrant dessus. Ça a été le cas, par exemple, un exemple très connu de Lil Nas X qui avait acheté le beat de Old Town Road sur BeatStars et après il a posé dessus. Ça donnait ça en gros.
I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boots.
La cellule, elle propose donc des services de beats sur mesure et de top line sur mesure aussi. Comment l'idée, elle vous est venue?
Alors, c'est très récent parce qu'en fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, produire un projet, ça coûte extrêmement cher. Et comme nous, on est totalement indé, quoi.
Ouais.
On a eu des partenariats, du coup, qui nous ont permis de financer, du coup, les premiers morceaux et les clips. Mais c'est vrai que quand t'as pas de maison de 10 derrière toi, c'est aussi pour ça qu'on veut créer une structure pour aller chercher une avance, etc., trouver un contrat.
Oui, voilà.
Parce que ça coûte extrêmement cher de produire, enfin tout ce qui est studio, surtout les clips, même la promo, en fait. Si t'investis dans le studio, dans le clip, et qu'après t'as personne qui regarde, si tu veux pas...
c'est pas important, en vrai.
Ouais, c'est ça. Tout ça, ça coûte cher. Du coup, je me suis posée, je me suis dit par quel moyen on pourrait trouver des choses pour financer le projet.
Ouais.
Et vu qu'il y a beaucoup de talent dans l'équipe, du coup, on a proposé des services. Du coup, c'est très, très récent. Ça fait quelques semaines. De top line sur mesure et de prod sur mesure.
Mm-hmm.
Et voilà.
D'accord. Bah là, on va écouter le deuxième son que tu as proposé. Tu veux nous dire un peu plus sur le deuxième son que tu avais proposé pour,
Alors, le deuxième son, c'est un son avec un artiste qui s'appelle Bowuna, qui est tout seul dessus, du coup.
D'accord.
Sur celui d'avant, ils étaient 3 en feat. Et non, j'ai pas plus de... c'est un son que j'aime beaucoup. Et Béo, c'est un artiste qu'on développe et tout, du coup, avec la cellule. Et,
ok.
Et voilà.
Bon, on va l'écouter tout de suite, alors.
Je veux le mode S, pas le temps de neige. J'ai perdu mon temps dans le business. business. Tes négros, tes audits sont fake. Te lâcheront pour une paire de fesses. Ils te la mettront pour le business. Business. H24, je fais le job. Je peux compter sur mes jobs. Dans le fait, fais-moi, je jump. Je suis sous Belty, je suis sous funk. J'ai fait des choix dans cette life. Je compte sur ma foi dans cette life. Et j'ai passé mon temps au quartier à zoner. Ne parle pas de tes plans s'il n'y a pas de lové. Leur étendu la main, ils ont fini par manger. Je compte plus sur ces gens car je sais qu'ils sont mauvais. Je fais mon oseille tous les jours, compter, recompter, je fais pour, chez nous l'oseille remplace l'amour, y'a plus d'amour, donc je fais mon oseille tous les jours, travaille sur ma solitude, rien ne va. Mais j'ai fait le tour de la ville dans la night. J'ai vu les pieds et les grands se mettre des rocks. J'ai fait des choix dans cette life. Je compte sur ma foi dans cette life. Et j'ai passé mon temps au quartier à zoner. Ne parle pas de tes plans s'il n'y a pas de lové. Leur étendu la main, ils ont fini par manger. Je compte plus sur ces gens car je sais qu'ils sont mauvais. Je fais mon oseille tous les jours, compter, recompter, je fais pour, chez nous l'oseille remplace l'amour, y'a plus d'amour, donc je fais mon oseille tous les jours, de 300, je veux pas rester dans le sale. J'ai dû tremper dans le sale, moi. Pour avoir 2-3 salaires, je veux pas rester dans le sale. J'fais mon oseille tous les jours, compter, recompter, j'suis fait pour, chez nous l'oseille remplace l'amour, y'a plus d'amour, donc j'fais mon oseille tous les jours.
C'était tous les jours de la cellule avec Beouna. Beouna.
Beouna.
Beouna, donc un artiste que, qui est développé au sein de la cellule aussi. Elisa, toi, tu es toi-même beatmaker, du coup.
Oui.
Yes. Qu'est-ce que le collectif t'a apporté à ton côté créatif en tant que compositrice ?
Bah, énormément de choses en vrai. Je m'attendais pas vraiment. Parce que, bah, de toute façon, c'était pas. Comme je disais, on l'a créé un petit peu
ouais.
de manière inattendue. Voilà, c'était très spontané. Mm-hmm. Bah, énormément, parce qu'en fait, moi, à la base, donc je prod, j'ai commencé. Enfin, ça fait très longtemps que je m'intéresse au beatmaking, mm-hmm. mais je me suis vraiment mise à fond dedans en 2020 pendant le confinement.
Ah ouais.
Parce que j'avais du temps, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais en fait, parce que...
Mais le confinement, ça a inspiré des artistes, à chaque fois j'en parle,
tomber,
et,
ouais.
et quand je vois en 2024 le développement de gens qui se sont lancés en 2020, je me dis, mais les gars, il est jamais trop tard.
Je me suis dit, c'est maintenant, j'ai regardé tous les tutos YouTube qui existaient et tout, ouais. parce que j'avais vraiment, enfin, j'avais déjà téléchargé le logiciel, mais en fait... Je savais pas trop comment ça marchait.
Ouais.
FL Studio.
Moi, je suis team FL aussi.
Ouais. Bah, en fait, c'était le plus simple parce que tout. Enfin, quasiment 90% des tutos que tu vas retrouver sur YouTube, ça va être sur ce.
Ouais,
logiciel.
Sur FL.
Donc, c'était beaucoup plus simple.
Mm-hmm.
Et donc, moi, j'ai commencé. Je faisais beaucoup. C'était beaucoup des prods rap français.
D'accord.
Mais toujours dans la mélodie, tu vois.
Mm-hmm.
Et en fait, depuis la cellule, bah, je fais tout. Je sais tout faire, tu vois. Parce qu'en fait, vu que c'est les influences de tout le monde, donc avant, je faisais que de la trap rap français drill, et maintenant, je fais vraiment tout R&B, afro.
Ouais, bah c'est vrai que même le grand parapluie du rap français s'est quand même développé avec toutes les influences aujourd'hui.
Mmh.
Qu'on retrouve R&B, on disait tout à l'heure que c'est devenu pas mal mélodique maintenant le rap aussi. Afro, parce que bah, y a beaucoup de diversité en France et donc beaucoup d'artistes ont aussi des influences culturelles afro.
Oui.
Et puis ouais, bah, toutes les influences aussi de la musique française qui sont très présentes aussi dans, dans la manière de faire les textes qui va être différent des artistes américains par exemple.
C'est ça.
Donc forcément, c'est obligé de se diversifier.
Et même travailler en équipe et tout, t'apprends beaucoup plus vite. J'ai énormément progressé en faisant ce projet.
Et est-ce que t'as des projets en indépendant ou est-ce qu'en ce moment t'es concentré sur la cellule?
Alors la cellule me prend énormément de temps parce que bah, du coup c'est moi qui gère un peu tout. Mm-hmm. Parce que en fait je laisse les autres un peu sur le côté artistique et tout. Et vu que moi je suis un peu à l'initiative des ateliers, ça s'est fait naturellement aussi. J'ai très vite pris du coup le pilotage du projet. Et c'est moi qui vais chercher les partenariats, c'est moi qui...
Ouais.
Bah, du coup, après, qui gère derrière les mails, c'est moi qui finis les prods, c'est moi qui organise les sessions studio, c'est moi qui...
Non, mais franchement, honnêtement...
C'est moi qui organise les clips, hein,
je suis super,
tout, je coordonne super tout, en fait. Donc ouais. Ça me prend énormément de temps, et puis je suis toujours en train de réfléchir à comment développer le projet.
Bah, franchement, ça fait plaisir de voir une beatmaker et une entrepreneuse dans la musique. Un entrepreneur, je crois pas qu'on dise entrepreneuse. est-ce que t'as des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent, que ce soit du côté artistique ou côté entrepreneuriat? Ou
là,
des mentors un peu ou...
Non, pas tellement, mais après, tu vois, le projet, je l'ai un peu calqué sur ce... Enfin, pour le projet, je me suis un peu inspirée sur ce que fait DJ Khaled, c'est de réunir des artistes, et après, en fait, c'est son projet, mais genre, c'est plein d'artistes dessus, tu
vois.
Ouais. C'est un peu inspiré de ça. Je suis un peu genre la DJ Khaled de Citadium. sinon la cellule c'est enfin voilà, tu vois.
Est-ce que tu balances aussi ton tag en mode DJ Eliza sur tous les sons?
Non, mais il y a mon tag, hein, c'est Eliza.
Ok, ça passe. Non, mais il faudrait aussi que je me trouve un tag. Moi, je suis encore en recherche de tag. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer, créer son label ou sortir un projet de groupe comme ça, maintenant que tu as l'expérience?
De pas forcer, faut que ça soit naturel, en fait. Faut que ce soit au bon moment où il tombe sur les bonnes personnes et tout. Faut pas que, genre, ça soit en mode « Oh, je veux faire un projet, il faut que je trouve les gens. » Ça peut, je dis pas que ça va pas marcher, mais ça peut être dur parce que je pense qu'il faut qu'il y ait ce truc naturel que ce soit, t'es là au bon moment avec les bonnes personnes.
Ouais, de se réunir, de vibrer ensemble et d'avoir envie de faire ce projet ensemble et tout. Et de balancer.
De faire ça avec vraiment des gens qui te ressemblent, qui ont la même énergie.
Ok. Bah, du coup, sur ce mot de la fin, merci beaucoup, Elisa. Est-ce que tu veux balancer... Enfin, on a déjà parlé des réseaux sociaux un peu. On a dit la cellule label.
C'est partout la même chose, sur TikTok Instagram, YouTube.
Ok, bah voilà, comme ça, on retrouve partout Spotify, toutes les plateformes de streaming.
Sur les plateformes de streaming, c'est uniquement la cellule.
D'accord.
La cellule tout attachée.
Ok.
Et vous pouvez trouver nos sons très facilement, je pense.
Ok, bah écoute, merci Eliza. Donc
merci.
C'était Eliza du collectif La Cellule, invitée ce soir à The Beat The Culture sur Radio Campus Paris. Merci d'être passée au studio. Et tout de suite, on va recevoir notre invitée de la partie The Culture. The Culture. The Culture. The Culture. Et pour la partie The Culture, je reçois donc Christy Sanson qui vient nous parler du marché afro-caribéen. Le marché afro-caribéen a été créé en 2017 et c'est un marché qui met en avant des artisans qui s'inscrivent dans les cultures afro-caribéennes. Donc pour nous en parler, nous avons en ligne la fondatrice de ce marché. Christy Sanson, bonsoir.
Bonsoir Justine, merci beaucoup pour l'invitation.
Bah merci à vous d'avoir accepté l'invitation à The Beat The Culture. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du marché afro-caribéen ?
Oui, alors le marché afro-caribéen s'est développé sur une idée simple, c'est de mettre en avant toute la richesse des cultures afro-caribéennes. Dans l'idée, c'était créer des événements, ça c'était déjà ma spécialité. Et je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser, cette spécialité, cette compétence, pour pouvoir mettre en avant ce que moi je connais de l'artisanat, des artisanats plutôt afro-caribéens. Donc, ça a commencé là. Je cherchais un peu quelque chose qui avait du sens pour moi. Je voulais continuer à développer l'événementiel, parce que j'étais dans l'événementiel depuis quelques années. Je voulais continuer dans ce sens-là, mais en apportant un peu plus de sens. Et je l'ai trouvé à ce niveau-là.
Est-ce que le marché afro-caribéen, il est porté par une association, une structure particulière ?
Nous, on est par ailleurs une agence de communication digitale, donc communication digitale événementielle. Et cette agence développe le concept du marché afro-caribéen. Donc, c'est une entreprise.
D'accord, ok. Donc, c'est porté par quelle agence ? Je ne sais pas si vous avez
le marché de la com.
Le marché de la com. Et cette année, alors, le marché sera samedi 16 et dimanche 17 mars à Paris, 116 rue de Turenne.
Exactement.
On invite d'ailleurs tous les auditeurs à y aller. Vous aurez... Vous accueillerez combien d'exposants à peu près ?
Alors, on a plus de 70 exposants.
Waouh.
On est bientôt à 80. C'est une salle qui fait 1200 mètres carrés,
ah oui.
Donc qui permet de découvrir de la mode, la beauté, édition, de la décoration et bien sûr un espace restauration.
Mmh.
On propose des ateliers donc pour animer la journée, un défilé, deux défilés le samedi,
ah oui.
Et bien sûr une animation DJ samedi et dimanche.
Ce sont des défilés qui sont de vêtements représentés par les artisans, c'est ça qu'ils font
Exactement.
D'accord.
Alors, on en profite, on profite d'avoir des artisans qui peuvent mettre en valeur leur création. Et donc, on les utilise pour pouvoir faire des défilés donc deux fois le samedi lorsqu'on fait des événements.
Et est-ce que vous pouvez aussi nous donner peut-être un petit panel du type d'exposants qu'on peut trouver?
Alors, le type d'exposant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de la mode, donc on va avoir des articles, des vêtements, on peut avoir des chaussures, on peut avoir des accessoires de mode, plutôt des cultures africaines, mais aussi des cultures antillaises. Donc, on va avoir du wax, du madras, on va avoir aussi des bijoux en kori, on va avoir des bijoux fulani, plein de types de bijoux différents qui représentent des cultures différentes justement. Mmh. On va avoir aussi de la cosmétique, beaucoup d'artisans qui vont proposer des produits avec qui sont très souvent des produits naturels pour prendre soin des cheveux et de la peau. On va avoir des accessoires de décoration aussi pour avoir une maison le plus personnalisée possible. On va avoir aussi des maisons d'édition qui vont proposer des livres et permettre d'en connaître un petit peu plus sur les histoires afro-caribéennes.
Mmh.
Et puis, bien sûr, la partie restauration. Donc, dans le corner restauration, on a un espace pour pouvoir se restaurer. Alors, je répète un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un espace avec des manches debout pour pouvoir se poser un petit peu dans le salon, ce qui n'était pas possible avant parce que on avait souvent cette problématique de place qu'on a essayé d'améliorer pour cet événement.
Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est la combienième édition, là?
C'est la 26e.
Waouh! Ah oui!
Ouais,
là, c'est rodé, là.
Oui, ça commence à être rodé.
Ouais.
Et puis, ça commence aussi à bien... il commence à y avoir pas mal de bouche à oreille, ce qui nous rend super fiers de cet événement.
Mmh.
Donc, on a quand même du monde sur nos éditions. Et justement, sur l'espace restauration, on avait un petit problème de place. Quand je dis un petit problème, c'est-à-dire que forcément, tout le monde ne pouvait pas stationné à l'espace restauration et c'est quelque chose qu'on a essayé de modifier pour cette édition-là.
D'accord, donc plus de place pour la restauration et plus de place du coup
Exactement.
Pour accueillir... c'est un événement qui est familial aussi, c'est ça donc, pour accueillir
Alors oui, c'est un événement qui est familial, qui est bien entendu avec des accès PMR aussi, donc il est ouvert à tous, il y a des ascenseurs, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir visiter tout l'événement dans sa globalité.
Super, on a le temps de faire les 80 stands et les animations en deux jours en général.
Oui. Généralement, justement, nos visiteurs prennent du temps. Hein. Une fois qu'on est rentré dans le salon, on en a bien pour 45 minutes minimum.
D'accord. Ah oui.
Donc, on a des gens qui passent toute l'après-midi dans le salon.
Le temps de discuter.
Et nous, c'est génial quand c'est comme ça, parce qu'on découvre plein de choses.
Ouais.
L'idée, c'est aussi de rencontrer des artisans qui sont avant tout des personnes qui sont passionnées. Donc, c'est de discuter aussi avec les artisans, en savoir un petit peu plus sur leur passion, sur le pourquoi du comment. Et c'est tout l'intérêt de ce type de salon, c'est de rencontrer, de parler de personne à personne.
Ouais.
Et non plus d'entreprise à particulier. Là, on est en face de l'artisan et il y a un lien qui se crée à ce moment-là.
Ah oui, oui, donc ça permet vraiment aussi d'avoir la vraie histoire de ce qui est réalisé en fait par l'artisan.
Exactement.
Aussi. Voilà.
Découvrir des marques, avoir un lien qui est plus fort dans le sens où on a beaucoup de personnes qui nous découvrent à travers les réseaux sociaux et qui vont aussi découvrir leur marque en vrai après les avoir peut-être découvert sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce point de rencontre qu'est le marché afro-caribéen pour pouvoir échanger avec son créateur préféré ou sa marque préférée.
On va faire une petite pause musicale parce que vous avez choisi une musique, Kessa Levé de Saïk avec Jocelyne Béroard et Felicia Ross. Pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Parce que j'aime bien, je trouve que Jocelyne Béroard, moi je suis fan depuis qu'elle fait de la musique, et je pense que ça fait là un petit moment qu'elle fait de la musique, et je pense qu'elle représente bien les Caraïbes. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas afro-caribéen. J'aurais pu choisir un son afro-caribéen, mais bon, ce sera pour une prochaine fois si j'ai l'occasion de revenir sur l'émission.
Avec grand plaisir. Petite pause et après, on va revenir sur l'interview. J'avais encore deux, trois petites questions. Et puis ensuite, on clôturera. À tout de suite.
Tambou do do
mais je dis y a pas caï l'amour on nous pas ni pongo
pour nous
on préfère écarter moi
on est l'impression nous pas compatible au savant j'avais plusieurs tentatives
non a pas fort en moi
même si c'est plus belle créative
on va répondre d'autres alternatives
yeah
on laisse les vues au ciel pour voir qu'un cœur pas ni l'étincelle encore on s'avoue en là mais on préfère éloigner moi.
Si vous pouchapez, souplez à l'importe là d'ailleurs. Pouvant en pas fini, chouboulé, ça carrête moi, j'en dis aïe.
La mort à Japon,
pas gagné un yen, aucun vin de moi.
Hey boy,
ouais, pas besoin de laisser ça qui démarre.
Vous êtes toujours sur The Beat The Culture, sur Radio Campus Paris, et vous venez d'écouter Kessa Levé avec Saïk, Jocelyne Béroard et Felicia Ross.
The culture.
On reprend l'interview sur le marché afro-caribéen avec Christy Sanson. Donc Christy, est-ce qu'au cours de l'année, vous organisez aussi d'autres événements ?
Alors, cette année, on va organiser deux événements, donc en mars et en décembre. Mmh. L'année dernière, on en a organisé 5.
Wow.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est aussi une agence de communication digitale.
Ouais.
Et donc, on a d'autres projets qui sont développés par ailleurs. Et donc, ben, forcément, il a fallu revoir un petit peu le calendrier de nos événements. Et cette année, ce sera essentiellement mars et décembre.
D'accord. Donc, décembre, j'imagine un petit marché de Noël, c'est ça ?
Exactement, c'est notre événement qui est le plus plébiscité par notre audience.
Mm-hmm.
Donc le marché de Noël, c'est l'événement phare du marché afro-caribéen.
Est-ce que vous avez un projet long terme rêvé, par exemple étendre le marché sur d'autres rayons géographiques ou créer un marché en ligne ou je sais pas, c'est des exemples.
Alors oui, on est en train de travailler sur des projets qu'on voudrait développer. Après, c'est à réfléchir. On est sur la partie un peu sondage, sur la partie réflexion. Il y a des petites choses qu'on a envie de mettre en place. C'est un petit peu trop tôt, moi, pour que j'en parle particulièrement, parce que bon, il y a vraiment rien de figé. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le fait de créer des événements, de voir aussi les problématiques des artisans, de voir, d'entendre aussi les retours des visiteurs, ça donne des idées. Ça donne des idées, forcément.
Bah oui, justement, vous avez eu, avec l'expérience de 26 marchés maintenant, quel type de retour est-ce que vous avez eu de la part des artisans ? Est-ce que vous avez constaté une évolution sur les années ou dans la mise en avant de l'artisanat afro-caribéen ?
Alors, au niveau du soin des stands, c'est-à-dire que quand on a commencé, peut-être que c'était le début des salons de créateurs, est-ce que c'était peut-être... Encore, c'était nouveau pour nous en tant qu'organisateurs et c'était nouveau aussi pour les exposants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche de préparation de son stand comme une petite boutique, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Avant, on avait un petit peu plus ce côté amateur du semi-particulier, entreprise particulière qui venait participer à un événement. Mmh. Et aujourd'hui, on a des structures qui sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus conscients de l'image qu'ils ont à transmettre à travers un événement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué.
Ça veut dire qu'il y a une formation de présentation des stands ou
comment... Oui.
D'accord, ok.
Très clairement. Alors, une formation, je n'aurais pas à dire jusque que c'est une formation, mais il y a maintenant une prise de conscience de l'image de marque.
L'image de marque est de plus en plus importante, je trouve,
oui,
surtout avec l'avènement aussi des réseaux sociaux, la manière dont on expose les productions, etc., les produits, c'est aussi important parce que les gens viennent. Finalement, chacun est un peu son propre magazine, son propre influenceur. Les gens viennent, prennent des photos, ils échangent et donc l'image est de plus en plus importante. Ouais.
C'est ça, nous on le répète au début des événements, on le travaille avec l'exposant cette partie-là, mais on voit que même pour les nouveaux exposants, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte. Donc ça donne un résultat qui est beaucoup plus esthétique que ce qu'on pouvait présenter auparavant. Mm-hmm. On le voit sur nos photos, les photos de 2017 ne ressemblent pas aux photos de 2023, et ça c'est encourageant sur la représentation qu'on donne des produits issus des cultures afro-caribéennes.
Quel retour est-ce que vous avez eu aussi au cours des années de la part des visiteurs ?
Alors, au niveau des visiteurs, c'est toujours très joyeux. Les visiteurs sont très contents de venir à chaque fois. On a des super retours, même sans exagérer. Hein, vraiment, ils sont très contents d'avoir quelque chose avoir un endroit où tout est réuni. Ils sont contents aussi de retrouver leur marque parce que pour certaines, elles n'ont pas forcément de boutique. Donc, c'est aussi le point de rencontre. Ils sont contents parce que il y a quelque part... alors, soit parce qu'ils découvrent, parce que nous, le marché afro-caribéen, il est fait surtout pour faire découvrir les cultures afro-caribéennes, mais parfois aussi, on redécouvre. Et ça, on a ces témoignages-là de visiteurs qui vont être contents de redécouvrir quelque chose qu'ils n'avaient plus, soit ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, ou justement ces produits-là, voilà, ça fait un moment que je les cherchais, des choses comme ça. Donc on est contents de ces retours-là. Après, on prend en compte tout ce que les visiteurs nous disent et on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, des sondages, beaucoup de sondages auprès de nos exposants et auprès de nos visiteurs pour comprendre ce qui est attendu. Parce que quand on a un échange rapide avec un visiteur, il ne peut pas s'étaler non plus sur son impression. Et nous, on en a besoin pour essayer de faire mieux les prochaines fois.
Notre interview arrive à la fin, mais est-ce que pour finir, vous pouvez... peut-être nous donner des informations sur... j'ai donné l'adresse tout à l'heure. Les informations que vous voulez, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux, au niveau de l'accès et tout ça.
Ok, alors nous, c'est le marché afro-caribéen. On est sur Instagram, Facebook, avec les pages et comptes le marché afro-caribéen. On a aussi notre site internet. On sera donc les 16 et 17 mars au 116 rue Turenne. L'entrée est gratuite. C'est très important, ça.
Très important.
L'entrée est gratuite. On est ouvert de 11h à 19h, donc les samedis et dimanches.
C'est sur inscription.
C'est très facile d'y accéder en métro. Pardon ?
C'est sur inscription.
Alors, on peut s'inscrire. En s'inscrivant, on gagne un shooting photo avec notre partenaire DF Studio.
Ah ouais ? Oui, voilà.
Oui. Donc, l'inscription n'est pas négligeable. Ouais. Ça permet, nous aussi, alors quand vous arrivez comme ça, ça vous permet de passer la queue aussi, parce que parfois, on a de l'attente.
Ouais.
Donc, ça permet d'éviter l'attente. Voilà pour les informations. Et puis, au niveau des animations, donc on aura des animations, comme je vous l'ai dit, des ateliers, mais tout ça, on le met à jour sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc, des ateliers, des défilés, animation DJ et l'espace restauration qui est très important aussi pour les visiteurs.
Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Christy Sanson, fondatrice du marché afro-caribéen. Vous l'avez entendu ici. Je vous rappelle que le prochain marché, donc, ce sera le samedi 16 et dimanche 17 mars à Paris, 16 rue de Turenne. Inscrivez. 116. 116. 116, faut pas se tromper, ce serait dommage. Inscrivez-vous en ligne, c'est gratuit si vous voulez bénéficier d'un shooting photo et pas faire la queue. Sinon, allez-y de 11h à 19h, samedi et dimanche. Un événement qui est familial, qui est gratuit, plein de stands, plein d'animations comme vous l'avez entendu ici. On vous y attend nombreux. Merci beaucoup, Christy.
Merci, Justine.
Et puisqu'on parle d'événements, j'en profite pour faire une petite parenthèse agenda, parce qu'avec les beaux jours qui viennent, on a des événements qui fleurissent. Donc voici quelques événements autour du beatmaking et autour de la culture afrodescendante en Ile-de-France dans les jours qui arrivent.
The beat.
The culture.
The beat.
The culture.
Côté beatmaking, le samedi 9 mars, l'association Loop Session, organise un événement autour du beatmaking et du sample avec sessions de prod en duo, atelier d'initiation, un talk, des showcases, et ce sera au Doc B à Pantin l'après-midi et le soir jusqu'à 1h du mat. Si vous voulez plus d'infos sur la programmation, allez sur leur page Instagram, Loop Session avec un S, Paris. Du 14 au 16 mars, dans le cadre de la L2P Convention. Donc la L2P Convention, c'est une convention autour de la culture hip-hop au sens large. Et donc comme le beatmaking est aussi une partie intégrante de la culture hip-hop, il y a quelques conférences et workshops qui sont organisés sur le beatmaking. Et notamment un talk le samedi 16 mars à 14h30 qui s'intitule « Beatmaker, de geek du son à réalisateur ». Les inscriptions sont sur DICE. Et c'est gratuit, me semble. Oui. Et donc, ce sera à la place Centre Culturel Hip-Hop à Châtelet, place de la Canopée. Ceux qui me connaissent savent que j'adore cet endroit. Allez-y, allez voir. Allez, si vous voulez plus d'infos, pareil, sur Instagram, L2P Convention et l'Instagram de la place Hip-Hop. Le 15 mars, enfin, on a l'asso We Make Noise qui organise une release party pour leur première compile 100% beatmakeuse avec des live DJ sets. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que ça tombe au milieu du mois de mars qui est le mois international du droit des femmes. Et donc, une petite fête en plein milieu de ce mois pour honorer les beatmakeuses, c'est exactement ce qu'il nous faut. Vous aurez plus d'infos sur Instagram également, donc wmn.france. Et donc maintenant, côté culture afrodescendante pour les événements et toujours dans la mise en lumière des femmes pour le mois du droit des femmes, on a une exposition qui est organisée du 4 au 10 mars, donc toute cette semaine. C'est une expo de 11 artistes féminines d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien qui aura lieu dans la galerie d'un super lieu qui s'appelle Diaspora. Donc dans ce lieu-là, il y aura une exposition de tableaux. De Diaspora, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est un café, c'est un restaurant, c'est un espace de coworking. Personnellement, j'adore ce lieu pour la déco, les cocktails, les repas et la librairie aussi qu'ils ont au rez-de-chaussée qui est vraiment top. Je crois qu'il y a 2 ou 3 étages. Et l'expo en question qui sera cette semaine s'appelle What's Up Africa Laughter. Donc je répète, ce sera du 4 au 10 mars à Diaspora, 6 rue de Tracy dans le 2e arrondissement de Paris. Maintenant, si vous êtes plutôt cinéphile, on a aussi quelque chose pour vous. Le vendredi 8 et samedi 9 mars, Cinewax organise un Africa Cinema Days. Et cette fois-ci, c'est le Congo qui est à l'honneur, avec projection de 2 films congolais, La vie est belle et Maman colonel. Le 8 mars, donc du coup, ce sera au Christine Cinema Club, dans le 6e arrondissement de Paris. Et le 9 mars, ce sera au 360 dans le 18e, toujours à Paris. Il y aura des stands aussi, débats, concerts et spécialités culinaires congolaises, vous connaissez. Merci d'ailleurs à Wakongo de m'avoir parlé de cet événement-là. Allez voir la page Instagram de Cinewax et la page Instagram de Wakongo qui est toujours pleine de ressources. Wakongo, W-A-K-O-N-G-O. Toujours pleine de ressources et d'infos sur les événements de la culture afrodescendante. Et enfin, on va terminer bien sûr par le marché afro-caribéen dont on vient de parler tout à l'heure avec Christy Sanson. Donc je répète, ce sera le samedi 16 et dimanche 17 mars. Et si vous kiffez vraiment les marchés, il y en a un autre un peu plus tôt qui sera à Pantin cette fois-ci le 9 et 10 mars qui s'appelle le marché Ubuntu qui sera à la Cité Fertile. Donc vous pouvez aussi aller sur la page de la Cité Fertile et puis, ou la page de Ubuntu et vous aurez plus d'infos sur le marché. Et c'est la fin de cette émission The Beat The Culture sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Elisa de la cellule et à Christy du marché afro-caribéen d'avoir été présente pour l'épisode. Et merci à Joey et à Rosalie pour la réalisation de ce troisième épisode. C'était Justine de The Beat The Culture sur Radio Campus Paris. À très bientôt.